tout à l'heure.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est l'écrivain Daniel Picouli. On va parler de son nouveau roman Les larmes du vin. Lisa-Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité, donc avant les premiers vers. Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Alice Buzet.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et rebonjour Héloïse Gouin.
Rebonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Alors tous les jours Bruno, vous scrutez les curiosités médiatiques et avant-hier vous avez donc regardé la chaîne israélienne I24 News, israélienne mais francophone, chaîne sur laquelle la journaliste Anna Cabana évoquait la tempête politique qui s'est abattue sur le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Oui, Jean-Michel Blanquer qui se trouve être, Philippe, la précision a toute son importance, hein, l'époux d'Anna Cabana. Télescopage ce matin donc entre le sujet d'un débat et la situation personnelle de celle qui a choisi de l'organiser. Je vous raconte. Mardi, Anna Cabana, qui anime tous les soirs une émission sur I24 News, une chaîne israélienne qui émet notamment en France, avait choisi de consacrer une partie de son programme à la polémique sur les vacances à Ibiza, dans laquelle est embourbé son ministre de Marie.
Alors on va d'abord commencer par parler de cette crise politique hein, autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête.
Elle a commencé par contextualiser le sujet, puis elle a présenté ses trois invités en prenant grand soin de mentionner une précision importante. Écoutez bien.
Et ce soir, j'ai le plaisir de retrouver l'écrivain Abnous Chalmani, le vice-président d'Ava Stéphane Fouxet, le rédacteur en chef politique du journal du dimanche, mon journal David Revaud-Allonne.
Voilà, elle a tenu à indiquer, par souci de transparence, bravo, que le journal du dimanche était aussi son journal, celui dans lequel elle dirige désormais les pages livres, depuis que le JDD lui a retiré la rédaction en chef de la rubrique politique pour cause de vie commune avec un ministre. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, Anna Cabana a également perdu la chronique politique qu'elle tenait sur BFM TV. En revanche, et là est toute la cocasserie, Philippe, elle n'a pas dit un mot à l'antenne du fait que Jean-Michel Blanquer était aussi son mari.
Et depuis la diffusion de cette émission, Anna Cabana a été vivement critiquée. De nombreux observateurs lui ont reproché une forme de connivence. Et ce matin, Bruno Donnet, vous êtes bien embêté. Parce que dans votre chronique d'hier, vous aviez précisément défendu le point de vue inverse.
Oui, c'est une petite ironie de l'actualité. Hier, en vous parlant de la séquence dans laquelle Valérie Pécresse a tenu à mentionner la plainte qui pèse sur Jean-Jacques Bourdin, j'ai évoqué ici même un paradoxe et expliqué combien il me paraissait baroque que tous les journalistes qui sont en couple avec des politiques soient immédiatement écartés de l'antenne, alors que ceux qui sont accusés d'agression sexuelle peuvent y rester. Et j'ai poursuivi en vous faisant observer que d'un côté, on respectait la présomption d'innocence des accusés, alors que de l'autre, on s'asseyait tranquillement sur la présomption de professionnalisme et d'honnêteté intellectuelle de ceux qui, bien qu'ils partagent l'avis d'une personnalité politique, pourraient parfaitement continuer d'exercer leur métier avec discernement et impartialité.
Et alors dites-nous Bruno, pourquoi le débat qu'a organisé Anna Cabana dans son émission contredit le point de vue que vous aviez défendu hier?
Bah, il vient lui mettre un bon coup de plomb dans l'aile parce que c'est en quelque sorte l'exception qui confirme la règle. Le problème ici, ce n'est pas qu'Anna Cabana ait choisi de traiter un sujet qui, après tout, était au cœur de l'actualité du jour. Ce qui pose problème, c'est la façon dont elle l'a fait. Car non seulement elle n'a jamais dit qu'elle était l'épouse du ministre et qu'elle était avec lui à Ibiza, mais surtout, elle n'invitait que des interlocuteurs qui ont défendu Jean-Michel Blanquer. Stéphane Fuchs a dit que la controverse était minable.
Ce qui me désole, moi surtout, c'est ce que ça révèle du niveau du débat politique.
David Revaud-Allonne a acquiescé en y ajoutant un argument géographique.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Stéphane Fuchs. Vous pouviez aller en Pologne orientale, il n'y aurait pas eu de polémique.
Quant à Abnous Chalmani, elle a décroché le pompon hein, avec un argument auquel je dois reconnaître que même les plus fervents défenseurs de Jean-Michel Blanquer n'auraient probablement pas pensé.
Sachant que s'il était parti en France, il aurait peut-être même pas pu faire du télétravail, puisque l'accès à Internet n'est pas encore présent sur tout le territoire.
Voilà, magie de l'entre-soi, il n'y avait donc dans ce débat aucun point de vue contradictoire, et c'est ça, Philippe, qui pose problème, ça et rien d'autre. Anna Cabana a poussé un cran trop loin le déséquilibre, et si le petit garçon de la pub, hein, qui causait droit dans les yeux de son poisson rouge, avait été là, il lui aurait très probablement dit
« Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice !»
Car épouse de ministre ou pas, la question est toujours la même. Elle consiste à dire simplement d'où l'on parle et à savoir jusqu'où ne pas aller trop loin.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. Alice Bluzet, votre indispensable ce matin aux alentours de 10h30.
Je vais vous parler d'une grande dame de l'humour qui a décidé de fêter ses 30 ans de carrière sur scène en reprenant tous ses sketchs cultes. On va beaucoup rire.
Héloïse Gouin, vous-même ?
On va un petit peu moins rire, hein. Je vous parle d'un programme bien triste aujourd'hui. Franchement, j'aurais préféré ne pas faire cette chronique. Gaspard Ulliel est décédé hier. On va revenir sur les films qui ont fait sa carrière.
Dans un instant, Daniel Picouli, le romancier, on va parler de son nouveau livre, mais d'abord musique. Avec le ressenti, quel plaisir d'annoncer ça. C'est la première fois de ma vie. Vous vous en fichez, mais moi je vous le dis. Sur Europe 1, à bas. A while ago, I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. Lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Don't Shut Me Down, c'est pas une reprise, c'est le nouveau single d'ABBA sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et un peu aussi homme de télévision. Vous avez fait éruption dans le paysage littéraire, c'est en 95 avec Le Chant de Personne. 500 000 exemplaires vendus, des prix, puis le Renaudot pour l'enfant léopard. Votre actualité, c'est pas une reprise non plus, c'est un nouveau roman. Ça s'appelle Les Larmes du Vin, c'est chez Albin Michel. Et comme dans Le Chant de Personne, vous racontez la saga familiale, mais par un prisme étrange, en tout cas qu'on n'attendait pas ici, le vin. D'abord, tout a commencé par un discours qu'on vous demande de prononcer. Quel discours et pourquoi ?
C'est un discours pour l'intronisation. Je suis chevalier du Tastevin au Clos Vougeot. Et on me demande...
En Bourgogne, c'est l'un des plus grands vins du monde, voilà, il faut expliquer. Oui, ça paraît... Parce que c'est un cérémonial, c'est pas n'importe quoi d'être là.
Absolument. Et donc, je dois faire un discours d'intronisation. Et, bon, j'avoue, je suis très étonné d'être intronisé, parce que j'y connais rien en vin. J'aime le vin, mais je n'y connais rien. Et je vais être en face de 300 spécialistes. Et donc, je me dis, il faut attention.
Comme
et...
vous dites, vous êtes écrivain, vous maniez les mots, et vous dites, je suis incapable d'en parler du vin dans la langue consacrée des connaisseurs.
Oui, parce qu'il y a une nouvelle langue. Quand vous parlez avec des connaisseurs du vin, vous ne comprenez rien. Alors, moi, j'ai repris le vieux théorème des conférenciers. Si tu ne connais pas un sujet, parle de toi. Au moins, tu le connais à peu près et on ne va pas te contredire. Donc, je me suis dit que j'allais parler du vin à travers le vin dans toute ma vie, de façon autobiographique, du ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui.
Vous dites, Daniel Picouli, dans une interview que j'ai trouvée de vous, ce livre est le plus personnel que j'ai écrit. Que racontez-vous que vous n'aviez jamais raconté ?
Je raconte d'abord mon... Il y a plusieurs choses que même remarque la personne avec laquelle je m'entretiens au début. Je parle beaucoup de la couleur, de ma couleur. De la religion et de ma petite sœur. Des choses qui sont...
Votre petite sœur Martine, à qui vous dédiez le livre ?
Oui, ma sœur Martine, que j'embrasse. Ça m'émeut d'en parler. Donc, la couleur, je pensais pas qu'elle était aussi présente. Et la religion, de façon très anecdotique également, mais très 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 présente également. Ces livres-là, et c'est pour ça que je le conseille à tout le monde, c'est vraiment une entreprise. C'est un chemin que vous faites avec vous, dans lequel vous allez vous découvrir. Parler du vin, parce que, comme vous l'avez dit au début, c'est étonnant parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. C'est un fil qu'on ne tire pas dans sa biographie. Et pourtant, il est là tout le temps. Et parfois, dans les plus grands événements de sa vie. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du vin ?
Et ça va du très, très bon à la piquette.
Ah,
il
n'y
a pas que des grands vins. En exergue, il y a la théorie d'un philosophe norvégien. Il s'appelle Finn Skarderud, je ne connaissais pas ce nom. Il dit, après un ou deux verres, oui, tout va plutôt bien. On croit qu'on est peut-être né avec un déficit de 0,5 g. L'alcool est dans une large mesure un lubrifiant social. Le dilemme consistant à trouver le bon équilibre.
Oui, c'est un film. C'est dans un film Drunk qui a essayé d'éclairer cette théorie. Il y a cinq gars qui sont un peu des intellectuels, des bobos. Cette théorie, pas. Ils essaient de la vérifier. Donc ils se mettent à boire. Bien évidemment, ils vont trop loin. Et en fin de compte, on s'aperçoit en essayant de vérifier cette théorie qu'ils ne vont apprendre qu'une chose, des choses sur eux, leur rapport au vin, qu'est-ce que ça a produit dans leur vie, qu'est-ce que ça a éclaté, qu'est-ce que ça a permis d'émerger. Et c'est un film quasiment qui vous met, vous, pareil, en situation de vous dire, alors, qu'est-ce qu'il a fait en moi, le vin ? Pourquoi je suis resté sur cette ligne de crête ? Moi, je ne bois pas, je pourrais dire ça comme ça. Pourquoi je suis resté sur cette ligne de crête de la modération ? Ce livre est presque une ode à la modération, à savoir pourquoi on ne tombe pas dans l'ivresse, parce qu'on pourrait se dire en tant qu'écrivain que formidable, ça donne des idées, l'ivresse est quasiment romanesque.
Vous avez raison, et la preuve, le second exergue que vous inscrivez, puisque vous en parlez, je n'aurais jamais écrit ce que je devais écrire si je n'avais pas arrêté de boire à 30 ans, et c'est Virginie Despentes qui écrit ceci.
Ça a été essentiel pour moi, parce qu'elle a dit ce que je pourrais dire. Pourquoi est-ce que j'étais à ce point méfiant à l'égard du vin ? C'est que moi, je sais que je ne pourrais pas écrire après avoir bu, que je ne pourrais pas et que le vin ne m'apporte rien du tout. Mais je le pressentais sans le savoir. Et ce livre a mis au clair mon rapport avec le vin. Et c'est ce qui me permet d'écrire et de me lever le matin et d'avoir rendez-vous avec mes personnages. Ouais, bien sûr.
Vous êtes 13 enfants, pardon, ça vous l'avez souvent raconté. C'est pour ça qu'il y a toujours 13 chapitres à vos livres, mais pas seulement. Étalé sur une période de 25 ans, vous êtes le 11e. Votre maman qui a eu son premier bébé, votre sœur Martine, a 15 ans et 3 mois. Pourquoi vous lui dédiez ce livre ?
Alors, je dédie ce livre à ma sœur parce que
Un peu le fil rouge du livre.
Elle est le fil rouge et d'ailleurs elle me le reproche à la fin parce que ce que j'aime dans un roman comme celui-là, c'est que j'ai pu renouer le dialogue avec aussi bien ma mère disparue, mon père et ma petite sœur. Et ma petite sœur avec laquelle j'ai pas eu le temps nécessaire de parler. C'est des moments sur lesquels on peut revenir un peu sur ses manques. Et elle me le reproche d'ailleurs. Elle me dit, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois maintenant que parce que tu as écrit un roman, tu vas mieux comprendre ce que je suis, mieux comprendre ce qui m'est arrivé ? C'est une espèce d'illusion qu'on peut avoir comme romancier.
Votre famille vous appelle Picoul dans le roman, parfois.
Oui, ouais, Picoul, parce que c'est une abréviation. Il y a mon frère, c'est Picouli. Et c'est un joli nom, Picoul. Et je le trouve un peu plus vif. J'aime cette apocope du Y. Oui. Mais je mets un Y à Pi. Picoul, c'est avec un Y. Voilà. Donc Martine, voilà, c'est ma petite sœur que j'aime. Et effectivement, c'est à elle que j'ai dédié ce livre. Voilà. J'espère qu'elle écoute, là.
Apocope, c'est pas un château du Bordelais, c'est dans le vocabulaire de Daniel Picoulis. On est ravis que vous soyez là. On va parler de choses joyeuses, de choses moins joyeuses. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'écrivain Daniel Picoulis. On parle de son livre Les larmes du vin. Vous parlez beaucoup de vous, mais on va en apprendre en plus avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Daniel Picoulis.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Vous maîtrisez l'art de compter et vous savez parler à tous les publics. Vous êtes aussi un homme de télévision et de théâtre, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre.
Le proto-Picoulis.
C'est ça. Daniel Picoulis, vous êtes né à Villemombre, en Seine-Saint-Denis, fils d'ouvrier, 11e enfant d'une fratrie de 13, mais le premier enfant né dans une maternité.
Oui.
Vous grandissez auprès d'un papa chaudronnier et d'une maman spécialiste du clafoutis légèrement brûlé.
Alors, ça m'a inquiété d'être le premier à être né dans une maternité. Je me demandais pourquoi, parce que ma mère a fait tous ses enfants à la maison. Elle a quasiment dit, mais j'avais peur d'être rouillé. Comment une maman pourrait être rouillée?
Vous commencez à imaginer des histoires très tôt pour vos petites sœurs qui aiment vous écouter et aussi et surtout pour vous débarrasser d'elles qui sont un peu pot de colle. Vos histoires, c'est une monnaie d'échange pour qu'elles vous laissent tranquilles, pour qu'elles vous laissent jouer.
Oui, c'est Scheherazade. Je raconte des histoires, je me débarrasse de mes sœurs. Voilà, c'est comme ça qu'il y a une vocation.
Vos parents vous élèvent en essayant de leur mieux de faire la vie plus belle que la vie, comme ils disent. Eux aussi, ils vous racontent des histoires. Par exemple, lorsque vous découvrez une grande cicatrice sur le ventre de votre père, stigmate d'une opération du poumon, lui, il vous raconte que c'est à cause d'une bagarre avec un tigre.
C'est une griffe de tigre. C'est-à-dire que moi, toute la journée à la récréation, je suis le fils du gars qui a chassé avec le maharaja de Bourou-Bourou. Au lieu de nous raconter simplement la maladie.
C'est génial. Et vous l'avez cru jusqu'à quel âge?
Je l'ai cru encore aujourd'hui.
À l'âge de 10 ans, vous partez en voyage en famille. La destination, c'est l'Algérie. C'est votre première découverte d'un autre pays, d'un autre univers. Là-bas, vous vivez votre première expérience professionnelle. Vous êtes embauché par un vendeur de Bengali, ces oiseaux exotiques.
Ah oui, j'ai adoré. J'ai vendu des oiseaux à Laki, les 5 billets pour 100 francs. À Laki, c'était... j'ai passé mon temps devant ces oiseaux-là. Le gars, il a dit, bon, il commençait à être emmerdant, le petit jeune, là, ils l'ont attrapé, mes parents ont accepté. Mais je voudrais que l'Algérie aussi, avec ma tête, c'est le premier pays où j'avais la tête du pays, quand je suis arrivé là-bas, et que j'ai vécu une chose, vous ne savez peut-être pas, c'est que comme on se promenait en maillot de bain, j'allais dire comme à Ibiza, quoi, vous voyez ce que je veux dire, on a demandé, ma mère voulait aller dans une plage, et c'était une plage privée, on lui a demandé, on lui a dit, oui, vous, oui, les deux filles, oui, mais lui, non. On ne fait pas entrer de petit arabe dans la plage. Et ma mère n'a pas pu prouver que j'étais son fils. C'est dingue. Elle était en maillot de bain. Voilà.
C'est incroyable. À l'école, Daniel Picoulis, vous aimez particulièrement la récréation. Peut-être un peu parce que votre maman vous lance le goûter par la fenêtre de l'appartement familial, un HLM qui donne sur cette cour de récréation.
Oh, oui, ça c'est un privilège absolu. Oui, absolument.
Vous êtes très fort en gymnastique et en rédaction. Des rédactions dans lesquelles vous racontez des histoires, là aussi, de très belles histoires. Mais le bémol, ce sont les fautes d'orthographe. Vous en faites beaucoup. Vous êtes dysorthographique, comme votre maman. D'ailleurs, la seule pensée que votre maman ait à écrire un mot d'excuse bourré de fautes pour l'école vous sort tous du lit quand vous êtes malade.
Voilà, mais je suis resté en forme parce que ma mère ne savait pas écrire le nom des maladies. Donc, j'aurais jamais pu m'excuser. Et vous donc, c'est grâce à elle que je suis en forme encore aujourd'hui.
Et vous en avez fait un livre un peu pour vous venger.
À l'école, toujours un peu plus tard, au collège, il y a votre prof d'italien. Elle est très belle, captivante, malgré les élèves turbulents qu'elle a face à elle. Tous ensemble, un jour, vous lui chantez cette chanson.
Nonoleta, per amarti, nonoleta, per uscire sola col te. Voilà.
C'est Gigliola Cicquetti, la gagnante de l'Eurovision 64.
Elle avait notre âge, c'est ça qui était fou. C'était la première vedette qui avait notre âge.
Daniel Piccoli, un jour d'été, à la radio, vous entendez ça.
Après l'épopée cinégétique des Bartavel, je fus d'emblée admis au rang des chasseurs, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur.
C'est la voix de Marcel Pagnol qui lit « Le château de ma mère ». Quand vous l'entendez, vous avez l'impression qu'il est avec vous. Vous ressentez son texte.
Ah oui, aujourd'hui, je suis depuis près de 20 ans président du prix Marcel Pagnol. Et le week-end dernier, on est allé à Allo pour préparer l'ouverture du musée Marcel Pagnol. C'est près d'Aubagne. Donc, Marcel Pagnol est là et j'accompagne. Bon sang, c'est dingue, parce que là, j'avais l'impression qu'il n'avait pas d'accent.
Ouais, exactement. Il est sûr que c'est Marcel Pagnol. Ouais. Oui, c'est Marcel Pagnol.
Un autre Marcel va beaucoup compter dans votre découverte de la littérature. Marcel Proust, vous le découvrez pour draguer une fille au collège.
Ah oui.
Vous développez aussi votre imaginaire à travers les pièces de théâtre que vous écrivez pendant les colonies de vacances. La journée avec un copain, vous les imaginez.
Ouais.
Le soir, vous les jouez devant les camarades. Un soir, vous avez le rôle du fantôme, mais même caché derrière un drap, vous êtes démasqué.
Oui, je fais « Ah !» Et tous les copains ont fait « Oh, on savait que c'était toi, donc on savait qui était l'assassin. » Oui, et c'est la première fois où je pouvais pas imaginer qu'on puisse me reconnaître dans un « haha ».
Daniel Piccoli, vous avez failli intégrer un groupe de rock à l'adolescence, mais votre passion pour le foot est plus forte.
Ouais.
Vous rêvez de devenir footballeur. Vous ne passez pas le bac et vous commencez des études de droit à Assas. Votre maman pense que vous allez devenir juge. Vous devenez finalement professeur d'économie et de gestion et barman à l'aéroport d'Orly.
Ça va bien ensemble.
Un job étudiant que vous continuez d'exercer à vos débuts dans l'enseignement. Ouais. Un job qui vous rapporte plus que prof d'ailleurs, mais qui vous fait rater l'alunissage d'Apollo 11.
Ah oui, les gars, ils ne m'avaient pas prévenu, ils m'ont mis de service pendant, parce que je faisais 11h, 6h, ils m'ont mis de service en plein, l'aéroport était vide, et à la fin, pour un peu participer à l'événement, je suis monté sur la terrasse d'Orly pour regarder la lune.
Vous arrivez à la littérature par le roman policier, vous apprenez dans l'écriture de Polar la rigueur de l'écrivain, vous faites vos débuts à la série noire, même si au départ Gallimard trouve que vos histoires sont trop noires pour la série noire.
Absolument.
Puis vous franchissez le cap de parler de votre propre histoire. Il a fallu pour cela que l'éditrice Françoise Verny vous pousse à sauter le pas avec le très autobiographique Le Chant de Personne.
Ouais.
Ce livre change votre vie grâce à l'écrivain Daniel Pénat qui en lit un extrait à la télévision dans La Marche du siècle. Le lendemain, votre livre est en rupture de stock dans les librairies.
Ouais.
Le public découvre votre plume, votre manière de raconter les histoires, votre histoire comme un hommage à vos parents. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
Et moi, je salue Daniel. Daniel, je le dis et je le dis dans ce roman, je ne sais pas qui je serais si Daniel n'avait pas fait cette intervention à la marche du siècle. Il faut rendre hommage à ceux qui vous ont aidé. Oui.
Daniel, c'est Daniel Pénac.
Ouais.
Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. À demain, vous restez avec nous. J'allais vous appeler Michel.
Ouais, bah, c'est bien ça.
Culture Média continue, on est dans les hommages. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Daniel Piccoli, Les larmes du vin, son nouveau roman. Et malheureusement, on va rester dans les larmes avec vous, Héloïse Gouache. Je vous salue à nouveau. Vous étiez là en début d'émission pour le Journal des Médias. On revient avec vous sur la carrière de Gaspard Ulliel, décédé hier d'un accident de ski.
Et oui, on le connaissait surtout pour sa sensibilité, pour l'intensité de son jeu. On se souvient aussi de sa gueule d'ange et de ses beaux yeux bleus. En tout cas, moi, ses yeux bleus me font chavirer le cœur depuis des années. Gaspard Ulliel est décédé à 37 ans et malgré ce jeune âge, il a eu le temps d'accomplir une très belle carrière avec pas moins de 27 rôles au cinéma. Il faut dire que l'acteur a commencé très tôt à jouer dans des films. C'est ce qu'il expliquait à notre antenne en 2013 au micro de Frédéric Ferrer.
J'avais été repéré par une amie d'une amie de ma mère. Lors d'un déjeuner qui ouvrait une agence de comédiens, elle cherchait des jeunes, elle m'a proposé de faire des castings, moi j'avais jamais imaginé faire ça. Très rapidement je me suis retrouvé avec des petits rôles dans des téléfilms au départ, mais bon voilà, c'était une première expérience sur un plateau. Mon premier vrai rôle, je devais avoir 13-14, c'était un unitaire, un téléfilm pour Arte de Jacques Mesguin qui s'appelait Julien l'apprenti avec Francis Huster.
Un téléfilm qui lui permet d'être repéré pour le cinéma. En 2003, il est révélé au grand public avec le film Les Égarés d'André Téchiné. Gaspard Ulliel n'a alors que 19 ans. Il joue un jeune homme illettré qui, pendant l'exode de juin 1940, devient l'amant d'une institutrice veuve jouée par Emmanuel Béard.
Vous préférez que je parte ou que je reste ?
J'aimerais bien que vous restiez. Mes enfants vous aiment bien. Vous savez vous rendre utile.
Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse chez moi ?
Les filles de ton âge, t'en as connu ?
Non, les filles de mon âge, ça m'intéresse pas. Il n'y a que toi qui m'intéresse. Je voudrais que tu sois ma femme.
L'année suivante, en 2004, Gaspard Ulliel décroche le César du meilleur espoir masculin avec le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. On est nombreux, je pense, à se rappeler de son interprétation bouleversante d'un soldat de la Première Guerre mondiale, fiancé à la jeune Mathilde, qui était jouée par Audrey Tautou. Alors, je ne peux pas vous énoncer tous les rôles qu'il a joués, ou alors ma chronique durerait plus d'une heure et je crois qu'on n'a pas le temps. Mais parmi les plus marquants, on se souvient de sa prestation dans la peau d'Yves Saint-Laurent. C'était en 2014, dans le biopic du même nom, signé Bertrand Bonello.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire?
J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec.
Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher.
Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement, maintenant.
Des fois, je ferme les yeux. Je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres.
Et Gaspard Ulliel faisait également partie de ces rares acteurs français qui ont eu une carrière à l'international.
Absolument, Philippe, et ça grâce à son anglais impeccable. En fait, ses parents l'avaient inscrit à l'école bilingue dès son plus jeune âge. Alors en 2007, il succède donc à Anthony Hopkins, excusez du peu, dans l'un des rôles, dans le rôle d'un des personnages les plus cultes du cinéma, Hannibal Lecter. Et c'est aussi aux États-Unis, à New York, que Gaspard Ulliel tourne en 2010 une publicité pour un parfum d'une marque de luxe française.
Would you like her to rephrase the question?
Vous avez certainement reconnu cette publicité pour Chanel, une publicité particulièrement prestigieuse, puisque c'est le réalisateur Martin Scorsese qui a dirigé l'acteur français. Gaspard Ulliel confiera plus tard qu'il avait davantage l'impression de tourner un court-métrage qu'un spot publicitaire.
Et est-ce que Gaspard Ulliel avait des projets prévus pour la suite?
Eh bien, récemment, il avait participé à la mini-série Marvel Moon Knight, qui sera diffusée sur Disney+, le 30 mars prochain. Il apparaîtra également cette année dans la série d'Alex Lutz sur Canal+, La Vengeance, au triple galop. Et puis enfin, l'acteur aurait bientôt dû commencer le tournage aux côtés de Léa Seydoux du prochain film de Bertrand Bonello, intitulé La Bête. Et si vous le voulez bien, Philippe, j'aimerais terminer cet hommage avec un extrait de la cérémonie des Césars de 2017. Un extrait qui résonne tout particulièrement aujourd'hui. Gaspard Ulliel venait de recevoir le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film « Juste la fin du monde ». Et il avait demandé à son réalisateur Xavier Dolan de lire ces quelques lignes.
Il paraît que les belles histoires de cinéma sont celles qui, au début, ne laissent pas présager de la fin. N'est-ce pas la raison d'être de cette vie sur grand écran? Que vous soyez acteur ou spectateur, la fin d'un film ne sera jamais la fin d'un monde, mais la promesse d'aventure à venir.
Prémonitoire. Merci beaucoup, Héloïse Goy. Un mot, Daniel Picouli, sur Gaspard Ulliel?
Moi, je ne connais pas très, très, très bien son travail. J'ai pensé à Jacques-Coul Croquant, je ne sais pas pourquoi. Mais hier, j'étais dans un collège, j'ai travaillé avec des enfants et j'ai envoyé un message aux enseignants pour dire « c'est vrai trésor, ces gosses ». Et j'ai pensé à son gamin de 6 ans, à sa femme ou à sa compagne, à qui on allait devoir annoncer que son papa n'est pas là. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Et c'est ça qui me rend triste, mais bien évidemment, comme tout le monde, et pour cette raison-là. Parce que moi aussi, j'ai écrit des choses et un jour, on est venu m'annoncer dans ma classe la mort de mes parents. Voilà. C'est quelque chose qui m'a ému sur ce plan-là. Très, 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 très fort. Et bien sûr, c'était... Quand après, j'ai revu comme tout le monde, c'est... Voilà.
Et ça s'entend, vous êtes encore très, très, très ému, Daniel Picouli. Ouais. Vous restez avec nous. Ouais. On va changer la couleur des larmes. On va passer des larmes de tristesse aux larmes de rire. On parle de Muriel Robin. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bandel.
En compagnie de Daniel Picouli, les larmes du vin, c'est une manière, je dirais, œnologique de raconter votre enfance et aussi votre vie, votre famille, vos passions. Tout ce que vous racontez, toutes les anecdotes qui sont dans ce livre sont vraies. Oui. Parce que vous êtes un fervent conteur et vous aimez enrober, enjoliver.
Voilà, en gros, un menseur. Non, mais. oui, non, bah si, bah, voilà,
vrai,
voilà.
Ouais.
Voilà
bah, en oui. gros, bah, vous non, êtes
mais,
romancier.
Non, mais c'est la question du vrai en matière de roman, je réponds toujours la même chose. Hein, si je l'ai écrit, et si je le raconte, c'est que c'est vrai, point. Et ça le devient vrai. En
non, plus. Mais le voisin, qui est une dauphine, vous ne connaissez pas les filles, vous êtes jeunes. Les dauphines, c'était l'ancêtre de la R8, qui était lui-même l'ancêtre de la R5,
ouais,
une voiture de chez Renault.
Pas,
le voisin, qui est une dauphine dont la serrure de la porte est gelée en plein hiver, oui. Elle est authentique.
Ah, puis complètement.
Racontez c'est... ce qu'il a fait.
Ah, bah, ce qu'il a fait, c'est comme beaucoup d'entre nous, quand on est comme ça, qu'on n'arrive pas à mettre la clé dans la serrure, on est en plein hiver, et il fait, on va soit mettre de l'eau chaude sur la serrure, soit on va souffler dessus, on va donner son air chaud, et voilà. Clac, on reste collé à la ceinture.
Mais racontez ce qu'il a fait, lui. Dans les bronzés, ils font pipi. Lui, ouais. Il a fait quoi?
C'est à ça que je pensais. Hein.
Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il vous racontait, comment ça, qu'est-ce qu'il a fait?
On passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le livre de Picouli. Oui. Qu'a fait votre voisin que vous avez vu faire?
Ouais. Moi, ce que j'ai surtout vu faire, c'est sa femme le surprenant dans cette position, c'est-à-dire, imaginez, il est en train d'embrasser une serrure et ça a fait, ça a produit une scène de ménage insensée comme s'il était en train de le tromper avec la dauphine. Voilà, c'est surtout ça.
Et puis vous racontez aussi les mariages populaires, mais c'est quand même incroyable. J'ai peine à le croire. C'est tellement beau. C'est du... Il raconte comment c'était les mariages. Les gens n'avaient pas tellement d'argent, enfin plutôt, les gens qui n'avaient pas d'argent faisaient des mariages groupés. Oui. Et je me permets de lire du Picouli. Dans les milieux populaires à cette époque, par souci d'économie, les mariages sont multiples. Plusieurs mariages sont abrités sous le même toit dans la même salle. Ce sont des usines à mariage agencées comme un gigantesque atelier à nappe blanche. Chaque table est pourvue d'un énorme tonneau de vin numéroté. On revient au vin. Ce jour-là, la mariée est en libre service. L'embrasse qui veut. On échange des sourires, des clins d'œil, des œillades, des toasts et encore des toasts. Les mariages se mélangent, on se découvre, on se rencontre, on regrette déjà. Le marié de la table numéro 4 lorgne sur la mariée de la numéro 7 qui, elle, bat des cils pour le numéro 5. Mais on y... c'est un dessin de Dubout, mais c'est dingo.
Mais oui, alors, genre, Dubout, c'était, quand j'étais gamin, c'était mon dessinateur préféré. Mais c'est la réalité, c'est au Moulin Brûlé, les gens, ces mariages de groupe, ces usines à marier. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a qu'en Corée qu'on fait ça. Oui, c'est vrai.
Non, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que la mariée se dit, tiens, tout compte fait, le gars de la 5, il était mieux que le mien. Ben, c'est ça qui est fou. C'est pas de se marier à plusieurs.
Mais bien sûr, mais les mariages, il y a plein de... Le cinéma se nourrit de ces rencontres, de mariages. Il y a l'ex qui vient, et il se produit comme ça, des regrets, peut-être même des rencontres. Ouais. Non, c'est une réalité. Et bien évidemment, pour revenir au vin, c'est que tout ça se fait dans une ambiance un peu vineuse et qu'à la fin, ça se finit sur le parking et les gars se tapent sur la gueule. Mais bon, ça, il faut quand même aller jusqu'au bout de l'histoire.
Hein. Alice Bluzel, rebonjour.
Rebonjour.
On va parler de mariage parce que je sais que vous parlez d'un spectacle un peu particulier ce matin.
Alors oui, je voulais vous parler d'un seul en scène, mais à plusieurs. Je suis allée voir pour vous un monstre vivant du spectacle, la papesse des humoristes, Muriel Robin. Ah ouais. Pour Muriel Robin reprend ses sketchs cultes et pof.
Et pof, c'est dans le titre.
Dans ce spectacle, on découvre ou redécouvre ses plus grands sketchs, comme l'addition, ouais, le salon de coiffure, la réunion de chantier, et j'en passe, il y en a plein. L'humoriste fête donc ses 30 ans de carrière sur scène avec ses fans.
Mais alors pourquoi vous dites un seul en scène à plusieurs? Il y a du monde, les gens montent sur scène avec elle?
Alors c'est presque ça. Ouais. Je vais vous laisser écouter la réponse dans un extrait du sketch Le mariage, quand Patricia annonce à sa mère qu'elle va se marier avec un noir.
Le noir, c'est qu'il a bonne raison de l'être. Hein. Mais dis-moi un peu, il est noir?
Noir.
Ou noir un peu?
Noir.
Ah, noir?
Noir.
Complètement?
Noir.
On n'est pas dans la...
Ah oui, il n'y a pas de monde sur scène, il y a du monde dans la salle. Et puis noir, ça fait écho avec ce que raconte Picouli dans son livre.
C'est exactement ça. C'est incroyable. Personnellement, c'est la première fois que j'allais voir un spectacle où le public connaissait toutes les répliques du spectacle.
Ça, c'est formidable.
On pourrait appeler ça Muriel Robin et son public reprennent ses sketchs cultes. Du coup, j'ai demandé à Muriel Robin ce que ça lui faisait à elle de voir qu'elle était dans une telle communion avec son public.
C'est très fort parce que d'abord j'ai découvert le premier soir, maintenant je le sais, mais que le public connaissait les textes très bien. C'était incroyable. Et là, et le premier soir, Pierre Palmade était dans la salle et quand on s'est retrouvés après le spectacle, on était tous les deux bouleversés. On n'a pas imaginé ça. Tout d'un coup, ça devient comme un karaoké, mais avec des mots, ça n'existe pas.
Pierre Palmade, donc, avec qui elle a écrit tous ses sketchs. Ouais. La particularité de Muriel Robin, c'est qu'elle ne fait pas du stand-up comme la plupart des humoristes qu'on peut voir aujourd'hui dans les salles de spectacle. Elle joue des personnages. C'est une comédienne en plus d'être une humoriste. Ces personnages, en plus, ils n'ont pas du tout vieilli parce que les situations sont toujours très actuelles. Je vais vous prendre un exemple. Le sketch de l'addition, qui est un des plus grands sketchs de Muriel Robin.
Jours,
je sens
absolument.
Que Daniel Picouli, vous le connaissez.
Je suis fan, absolument.
Et ben, on connaît tous quelqu'un qui, au restaurant, au moment de payer, refuse de partager l'addition parce qu'il a pris qu'une salade.
Non,
Philippe, vous connaissez.
Dit, mais non, parce qu'il dit, moi j'ai pas pris de vin. Mais on est dans le bouquin de Picouli, tellement les crevards.
C'est des situations, donc, comme on peut le voir, qui font toujours autant rire parce qu'elles sont actuelles.
Mais alors, qu'est-ce qui explique que le public connaisse aussi bien ces sketchs?
Philippe, c'est dingue, c'est une très bonne question parce que c'est la question que j'ai posée à Muriel Robin.
Ça m'est tombé dessus, quoi. Et encore une fois, avec ces VHS, parce qu'il y a eu les VHS, après il y a eu les DVD, mais moi j'ai commencé, j'ai été dans les voitures en cassette audio. Donc quand même, donc dans les bagnoles on m'écoutait, après à la maison, et je sais bien ce qui se passait avec ces VHS, puisque moi je le faisais avec des films, des films, puis après on le passe, on le montre à des copains, on le montre à la famille, on le re-regarde, on le connaît par cœur.
Alors voilà, c'est grâce aux cassettes audio et aux VHS que Muriel Robin allait rentrer dans le quotidien des Français. Et elle continue à le faire, puisque aujourd'hui, il y a un nouveau public qui vient la voir. Dans la salle, on peut voir qu'il y a des parents, des grands-parents, des petits-enfants. J'ai vu vraiment de tous les âges dans cette salle.
Et il n'y a que des anciens sketchs ?
Alors non, vraiment, rassurez-vous, il y a aussi des nouveaux sketchs.
Je n'étais pas inquiet. Il n'y aurait que des anciens, j'aurais été heureux aussi.
Il y a aussi des nouveaux sketchs. Mais alors surtout, surtout, Muriel Robin, elle nous fait un cadeau. C'est qu'elle fait la suite du spectacle, du sketch Le Mariage que vous avez entendu tout à l'heure. Et elle nous l'offre sur scène. Et c'est vraiment très, très drôle. Je vous conseille donc vraiment d'aller voir ce spectacle. Ouais. Alors j'arrive. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle. Il joue encore demain au Théâtre des Champs-Élysées, le 25 janvier à Caen, le 1er février à Nantes. Et Muriel Robin fera sa dernière date du spectacle le 13 février à la salle Pleyel à Paris. Courez-y.
Merci beaucoup Alice Bluzet. Pigouli, vous êtes fan de Muriel Robin. Vous n'avez pas arrêté de rigoler pendant la chronique.
Parce que le sketch noir, ça m'a fait penser à Sidney Poitier, devine qui vient dîner ce soir. Et même avec ma couleur intermédiaire, dirait Muriel Robin, il y a des parents qui sont... Pareil, j'ai des jeunes amis, des copines, qui ont dû dire à leurs parents « Soyez pas étonnés ce soir, peut-être la personne qui va venir m'accompagner n'est pas tout à fait blanche. Ouais. » Voilà. Donc j'ai vécu moi aussi le devine qui vient dîner ce soir. Et je ne sais toujours pas, après le sketch de Muriel Robin, de quelle teinte de noir je suis.
Vous avez souffert de ce racisme ou pas du tout?
Non.
Parce que vous racontez avec un immense sourire et un immense détachement.
Oui, mais parce que
c'est de la résilience ou est-ce qu'à l'époque, déjà, ça glissait sur vous?
Non, ça glissait sur mon père. Mon père était plus noir que moi, plus typé, les cheveux crépus. Et ma mère, par contre, ne supportait pas parce que quand elle allait le voir à la boxe, il le traitait de blanchette. Ma mère a sorti son parapluie et elle se battait dans la salle. Mais mon père disait « Paulette, laisse-les dire. » Et je ne peux pas aller au-delà de cette philosophie de mon père. Paulette, laisse-les dire. Et c'est comme ça que je me protège le mieux de tout ce qui peut. Et après, je raconte les choses comme ça. Voilà.
Daniel Picouli, les larmes du vin, quel mot vous employez? Vous restez avec nous, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. Tout de suite. Culture Média, Daniel Picouli avec nous, Les larmes du vin, c'est en roman, c'est chez Albin Michel. Le vin est plein d'histoires, c'est le surtitre. Elles écrivent en roman très personnel. C'est vrai que c'est très personnel. Je ne sais plus ce que je voulais demander. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre une tonalité grave ou une tonalité joyeuse? Je vais rester entre les deux. Mmh. Vous racontez des choses que j'ignorais. Par exemple, Claude Villers, on est ici une émission média qui est une immense voix de la radio, qui était sur Inter. Il était catcheur avant.
Il était catcheur. C'est l'homme au bas de soie, Claude Villers. Absolument, c'est lui qui me l'a raconté. Et quand c'est peut-être la première voix qui m'a marqué à la radio. Peut-être après Geneviève Tabouy. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Geneviève Tabouy.
Je ne connais pas, je connais son nom.
Geneviève Tabouy, c'est du 1900, dans les années 1960.
Je suis trop jeune pour avoir connu quand même là.
Attendez-vous à savoir.
Oui, je connais cette version. Voilà.
Et donc, Claude Villers, après quand j'ai rencontré cette voix, qui a la caractéristique de ne pas correspondre parfaitement au physique de Claude Villers, vous connaissez Claude Villers, on a cette première surprise entre la voix et le physique. Voilà, et puis... C'était un mec absolument extraordinaire. Il m'a raconté, puis il était en concurrence avec l'Ange Blanc, le bureau de Béthune et tout ça. Voilà. Mmh. C'est toute une. Et Roger Coudert qui était au commentaire.
Bah. Je me souviens très très bien, il présentait le tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges. Ah, un jour, Desproges dit dans l'émission en direct, il dit, président Villers, le cirque Pinder vient d'appeler. Il dit, ah bon, ils ont dit quoi? Il dit, ils veulent récupérer leur toile de tente. Parce que c'était le cirque, c'était avec ça qu'il s'habillait. Il avait pris un petit peu de poids. Le meilleur vin du monde, vous le trouvez vraiment en Italie à Cuneo
la Marocque. C'est parce que y a pas
non,
de vin.
Mais c'est un gars qui vous dit ça.
Non, oui, d'accord.
Mais est-ce que c'est le meilleur vin que vous ayez
mais
bu?
Mais ça devient parce que c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, tu bois ce vin-là, tu vas à Rome, tu vas dans la fontaine de Trevi, bon, c'est-à-dire quand même. Et si tu jettes une pièce, tu bois ton verre de vin d'Amarone, tu jettes une pièce.
Ouais, bien sûr.
Et tu vas
en gros,
entendre.
Il vous a pris pour un touriste.
Oui, non, mais ça fait bien. Ça fait. Mais je m'en fous du moment que ça fabrique une histoire. Moi, j'aime les gens qui me racontent des histoires. Il m'a dit, si tu fais ça. Et si tu es vraiment amoureux, tu vas entendre la voix Marcello. Oh. Ah, voilà, donc c'est tout, faites-le, vous saurez comme ça. C'est un test universel.
Et dans ce livre, on apprend aussi que Malek Chebel, votre ami érudit, a découvert du vin dans le Coran. Oui. C'est page 296, j'en revenais pas moi-même. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi homme de télévision, vous aviez l'émission littéraire Café Picouli sur France 5 très longtemps. Et puis, vous aviez une émission sur France O, une émission littéraire, s'appelait Page 19. Mmh. France O a cessé d'émettre le 23 août 2020. À la place, a été créée une plateforme numérique, Outre-mer, la première. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on y a gagné au change?
Ah non, je crois que c'est un tour de passe-passe. Non, la chaîne a été supprimée. Et comme l'a dit notre ministre, cette chaîne était une chaîne communautaire. Moi, j'ai appris que je travaillais sur une chaîne communautaire depuis près de 20 ans. Elle a été supprimée. Beaucoup, peut-être, ont cru que, voilà, on a cru à des promesses et qui n'engagent que celles qui, voilà,
que
comme on dit.
Qui y croient.
Et en fin de compte, ce que l'on voit, moi, je vois, j'ai beaucoup de mal à revenir. J'ai proposé des émissions, bien sûr, parce que j'ai envie de reparler de littérature, d'outre-mer. Ben non, ça marche pas. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est tout ce que je peux dire, moi. Voilà, c'est tout. Bon, si des gens... on peut dire que on va pas mettre des gens dans la rue à cause de la suppression de Franceau. Et on a vu, très curieusement, à cause du Covid et tout ça, on a vu revenir l'outre-mer, ouais, à travers tout ce qui se passait en outre-mer. Et on a redécouvert l'outre-mer. C'est des sujets que nous, on traite depuis des années et des années, sont tout à coup devenus d'actualité avec le Covid. Et tout à coup, cette chaîne Franceau est revenue presque nécessaire. Mais elle a disparu. Point. C'est tout.
À propos de télévision, racontez une anecdote dans un tournage de Café Picouli. Là, je reviens à votre livre. Le thème du débat, je m'adresse à Julia Vignali, et d'ailleurs à vous, et
Élodie Gomez.
C'était le Élodie, j'ai toujours entre Élodie et Émilie, voilà pourquoi je n'osais pas me lancer là-dedans.
Personne n'a vu,
c'est peut-être pour ça que les mots n'arrivent pas. On dirait un thème pour vous. Le thème, c'était les cures chic de détox pour les people.
Oui, absolument, c'était ça.
Et racontez qu'on pourrait le faire.
Et racontez ce que fait votre invité.
Ce qui fait mon invité, c'est que c'est Café Picouli, hein, ça se passe le soir. C'est dans un vrai café, donc il est sur le trottoir. Et puis il vient pas. On a installé le plateau. Je vais le voir sur le trottoir. Et tout à coup, je le rassure. Et son attaché de presse me dit, mais il sait très bien, Monsieur Picouli, il a confiance. Et je parle avec lui, et tout à coup, il démarre comme ça, il se sauve en courant.
Oula.
On est en pleine nuit dans la... Il se sauve en courant. Le gars, c'était, il a été désintoxiqué, mais je ne sais pas par qui. En tout cas, il a disparu. Et on n'a pas pu le retrouver, tout le monde courait dans le voilà. Et c'est une anecdote vraie, mais qui est un petit peu dramatique, parce qu'il tremblait, ça, oh. Il tremblait très très profondément... Hein. Mais ça m'a marqué.
Avez la pudeur de ne pas donner nom. On vous le demandera pas. Non, 10h55, aucun rapport. C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des personnalités qui, là, viennent voir notre invité, Daniel Picouli. Et comme vous faites partie des grosses têtes, c'est Laurent Ruquier qui a tenu à passer.
Bonjour Philippe, bonjour Daniel. c'est vrai que Daniel a rejoint les grosses têtes. Mais si ça vous dit, Philippe, vous pouvez nous rejoindre aussi. On mange dans une petite brasserie après l'émission. Rejoignez-nous pour prendre un café, je vous invite. en tout cas, si je suis venu, c'est pour dire un grand bravo à Daniel. Bravo pour son nouveau livre. Et surtout, bravo d'avoir supporté les questions de Vandel pendant une heure.
Renaud a très envie de lire votre livre, Daniel.
Rien que le titre, « Les larmes du vin », c'est moi. Quand je chiale devant un film, sur mes joues, c'est les vendanges dans le Médoc. Quand je transpire, je peux payer ma tournée rien qu'en essorant mon lycra. Enfin ça, c'était avant, maintenant je suis sobre. C'est pas l'homme qui prend le vin, c'est le vin qui prend l'homme.
Dominique Besnéard, vous dire un mot, Daniel Picouli.
Ah bah dis donc, Vandel, tu te foules pas pour le lancement, hein. Oh Daniel, je t'adore. J'étais venu te voir au Café Picouli, t'as cette faculté à faire parler les gens. Je t'avais révélé que je m'étais drogué une fois dans ma vie, c'était avec Patrick Devers. Je fais le lien avec ton livre, hein. Ce soir-là j'aurais préféré boire avec Patrick Devers de vin. Où est le calembour, la vilaine,
hein. Et Jean Lassalle vient d'arriver dans le studio.
Bonjour monsieur Vandel, et bonjour monsieur Picouli. Alors, très joli nom de famille au passage, qui va ravir avec le titre de votre livre, Les larmes du vin, voyez-vous. J'ai d'ailleurs acheté un exemplaire, vous savez, je l'ai ici, hop, avec moi, voyez-vous.
Et donc,
je peux vous dire que...
Mais il boit.
Il boit vraiment.
Ce passage est excellent, voyez-vous. Celui-ci est délicieux. Et la fin n'est pas piquée des hannetons. Pardon, petit rototo, excusez-moi. D'ailleurs, monsieur Picouli, comme vous êtes aussi moitié martiniquais, voyez-vous, je vous propose que l'on commence à écrire tout de suite ensemble le tome 2 de votre ouvrage, qui pourrait, bien entendu, s'intituler « Les larmes du rhum ».
Oh non.
Il boit une bouteille de Bacardi.
Oui, alors, vous n'aurez pas aussi une ascendance mexicaine?
Non, mais Tarbes.
Ah, Tarbes. Bon, bah, ça tombe bien parce que voyez-vous, on pourrait partir
avec
sur une trilogie. Tarbes avec de la tequila. C'est parti. Vive la République et vive la littérature.
Merci beaucoup, Antoine Nobel. Merci, Daniel Picouli. Tout ça en live, il le fait en live. On va voir si c'est du vrai ou si c'est de l'eau minérale dedans.
Prenez un peu d'écho.
C'est la pagaille dans le studio, monsieur.
On ne fait pas semblant, voyez-vous.
C'est du vrai.
C'est du vrai.
Ce type est dingue. Demain, dans Culture Média, je retrouve mon calme pour vous dire que nous recevons. Le criminologue Alain Bauer pour l'émission Au bout de l'enquête consacrée à l'affaire du Grélé, tueur en série identifié 35 ans après. Et puis les sœurs Berthollet, violoncelliste et violoniste, pour leur nouvel album composé de musique de série et qui s'appelle Série. Je précise évidemment, Daniel Picouli, vous l'avez dit, qu'il faut toujours boire avec modération.
Absolument.
Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous, le brame du jour.
Alors, est-ce qu'on peut être heureux en amour en croyant à des trucs qu'on nous a répétés quand on était petit? Par exemple, les opposés s'attirent, avec moi il va changer, tout ça. Eh bien, on va remettre tous ces mythes en question. Ce sera un petit coup de main pour tous ceux qui cherchent encore l'amour. Et puis, dans le dossier santé l'amour du jour, on n'aura pas besoin d'alcool du tout. De toute façon, l'alcool, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, ça on le sait bien.
Bien sûr.
Va parler de la sonothérapie, comment les sons tels que les boltimétins, des gongs, en fait, tous des instruments vibratoires nous font du bien pour nous relaxer, pour diminuer l'anxiété. On fera le point dans Bienfait pour vous.
La sonothérapie, ça a éveillé
ça va
le
vibrer,
visage
hein, ça
de
va
Daniel Picouli. Restez là pour l'émission. Nous, on se retrouve demain à 9h. Salut.